Phil PM. La voix est libre.
Comment tu vas, mon Luc?
Ça va bien, toi? Daniel?
Daniel, il nous en reste juste deux, là.
Ben oui!
Alors,
un seul dodo, deux émissions.
Oui, voilà. Ceux qui se demandent pourquoi je fais pas vendredi, je me suis pas pogné avec mes boss pantoute, c'est que j'ai un show à Edmundston, c'était prévu dès le départ. Alors, Luc, tu vas nous parler du sondage mainstream, ça, les conservateurs et les libéraux, ben ça ressemble pas mal, ils sont au coude à coude un peu.
Ils sont, on est à deux, c'est le 21 octobre, l'élection. Alors, on est là, puis on rentre dans la période électorale. Et là, ils sont carrément nés à nez, 34,5 pour les libéraux, 34,1 pour les conservateurs. Évidemment, ça se situe dans la marge d'erreur. Là,
déjà.
C'est d'ailleurs la première fois dans les sondages que, ça c'est intéressant, que le Parti libéral fait moins bien au Québec que lors de son élection de 2015. Il avait reçu 37,7 des votes, alors que là, il se situe à 34,5. Mais, vite, pour ceux qui se réjouissent trop vite que les libéraux vont être battus, il demeurerait au pouvoir, selon la firme de sondage, au pouvoir en raison de sa popularité dans les régions clés. Par exemple en Ontario, hein, qui est là où il y a le plus de comtés, l'avance est maintenant de 12,7. Donc, il continue de monter.
Ils ont quand même élu Doug Ford.
Oui, mais c'est justement ça qui nuit à Trudeau à l'heure actuelle. Ils ont élu Doug Ford. Ça fait un peu plus d'un an que Doug Ford est au pouvoir, puis il est pas populaire, mais pas du tout.
Tant que ça.
Alors, c'est ça le problème. D'ailleurs, toute la stratégie des conservateurs, présentement, en Ontario, c'est de rapprocher les deux. Un gouvernement de Doug Ford, on n'en veut pas à Ottawa, tu vois le genre, là, c'est parce que
ouais,
c'est vraiment...
Je suppose que
là,
les conservateurs, eux, essayent de cacher Doug Ford.
Ils essaient de le cacher le plus possible. Ils ont dit « Merci pour ton aide, Doug, on se reverra après l'élection ». Mais à l'heure actuelle, c'est ça qui les sert beaucoup. Et au Québec, ils ont quand même une avance de 11,2. Et c'est toujours le même jeu. Dans les Maritimes, les libéraux, à part quelques aberrations historiques comme, des soubresauts historiques, par exemple l'élection de Brian Mulroney en 84 et en 88, il y avait eu une très forte présence dans les Maritimes. Mais généralement parlant, les provinces maritimes, ça vote libéral, il y a 25 comtés, puis les 25 passent aux libéraux, puis des fois c'est 23, mais c'est rarement 17. Là, t'sais. Mais par ailleurs, les libéraux, donc, ils ont cette force au Québec, grand nombre de comtés, force en Ontario, là où il y a beaucoup, beaucoup de comtés, très faible dans l'Ouest, tandis que les conservateurs sont super forts dans l'Ouest. Ça, c'est une situation qu'on connaît depuis des années et des années.
Ouais, ça n'arrive pas comme une surprise dans ces sondages. Ça.
Non, mais sauf que... Tu vois, quand ils ajustent leur discours en fonction de cet électorat-là, dont il faut quand même qu'ils s'occupent, c'est leur base d'électorat, ils montent dans les sondages dans ces provinces-là, mais ça donne aucun siège de plus, puis c'est pas comme on n'est pas élu. Un premier ministre n'est pas élu au suffrage universel, ici, il est élu par le nombre de comtés. Alors, c'est ça leur problème, c'est la répartition.
C'est notre sorte de collège électoral, si on veut, à nous.
C'est notre équivalent de ça, c'est genre. Comme
genre style comme.
Voilà. Intéressant, par contre, de voir la montée du Parti vert. Là, ils sont nés à nez avec le NPD à 11,1 et ils se maintiennent. L'affaire avec le Parti vert, ils sont pas si élevés que ça. D'abord, 11 c'est pas rien. Là. Ça peut influer énormément sur le résultat d'une élection. Mais c'est surtout qu'ils sont dans un momentum vers le haut. Là. Ils montent de mois en mois.
Là, excellent, les autres partis vont parler plus d'environnement, mais on s'entend que la vague orange est dans un creux de vague à maudit. Là.
Ben, la vague orange, je pense qu'elle est essentiellement morte, tu comprends? En tout cas, au Québec, à moins qu'il y ait des députés locaux qui soient si forts auprès de leur électorat que les gens vont vouloir les réélire, il n'y a plus de vague orange, il n'y a plus d'attachement au NPD, ça a été une affaire de passage, puis ça s'est répété deux élections, une élection et demie, disons. Et quand tu penses au vert, on revient à eux autres, en Colombie-Britannique, ils sont à 21 des intentions de vote. C'est beaucoup, là. D'autant plus qu'ils ont été chercher un deuxième comté dans une élection partielle récemment. Les verts! Alors ça va être un phénomène qu'il va falloir absolument, mais absolument surveiller. Ils sont même dans l'opposition officielle à l'Île-du-Prince-Édouard. Tu me diras, c'est pas une grosse référence, mais c'est vrai quand même. Ils ont failli gagner l'élection provinciale.
C'est une province.
Ouais, c'est une province qui a à peu près la population de Rimouski, mais c'est... mais c'est une province quand même.
Pareil, il vote au provincial. Ça,
et
ça.
Là, le Bloc québécois, il était à 18,6%, ce qui est quand même beaucoup quand on le compare à ce que c'était il y a un an. Sauf que je pense qu'ils ont plafonné rapidement. Je suis un peu étonné. Moi, je pensais qu'ils allaient monter plus que ça. Même que certains sondages les placent à 20, à peu près, 20-21%. J'aurais cru que, compte tenu de la vague nationaliste déclenchée par l'arrivée de la CAQ au pouvoir, aurait favorisé le Bloc québécois, mais ça a l'air que mon raisonnement ne se concrétise pas là, mais qui sait, on verra. Ça se peut aussi que l'arrivée de la CAQ ait rassuré le courant nationaliste québécois au point où ils se disent « Bon, ben ok, on n'a plus besoin du Bloc à Ottawa, là, on va envoyer du monde pour participer aux décisions. » Peut-être que c'est ça.
Maintenant, ça pour toi, quand ça a été Martine Ouellet, puis forcément le Bloc a éclaté à ce moment-là, on s'en souvient tous.
Oui, ben oui.
Est-ce que la plupart de ces députés indépendants-là sont revenus au Bloc?
Oui, oui, tout à fait.
Tous.
Mais là, il faudrait vraiment qu'ils fassent au moins aussi bien que la dernière fois, sinon mieux. Moi, je trouve que le cas le plus intéressant, c'est le Parti populaire de Maxime Bernier. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, il est maintenant à 3,3% des intentions de vote. Il va faire un balayage de je ne sais pas qui, le Mandegas. Au Québec, c'est plus fort.
Ah oui?
Maxime Bernier score au Québec, il est à 4,4%.
Il est dans son coin, ça doit marcher. Il vient de là, puis il y a tellement de belles chansons. Arrête, là. Fait que là, on va mettre ça aux lignes, là. Si vous voulez nous appeler dans la Grande Région de Montréal, vos prédictions. 514-790-9850, puis sans frais de partout au Québec, 1-866-790-9850. Envoyez-nous vos prédictions, d'après vous, qui c'est qui passe?
D'après toi, c'est quoi, Dan? Ça te donne quoi, ça, toi?
C'est très, très, très embêtant. Ce qui s'est passé aux dernières élections, c'est qu'il y avait Mulcair au NPD. Il n'était évidemment pas Jack Layton. Mm-hmm. Et lui, il a essayé de tirer centre-droit le NPD qui était parti de gauche.
Ouais.
Ben, Justin Pocave, il s'est faufilé vers la gauche.
Et
il
oui.
a doublé le NPD par la gauche.
Exactement.
C'est quand même quelque chose.
C'est exactement ça.
Et après ça, une fois au pouvoir, ben, il gouverne plus à droite. Fait qu'il a réussi à fâcher tout le monde.
Je ne sais pas si on peut dire qu'il gouverne à droite. Moi, je pense qu'il gouverne dans le vide. La réalité, c'est que qu'est-ce qu'il a réalisé, Trudeau?
Il faudrait faire une analyse, voir où est-ce que Luc et moi, on met le centre. C'est peut-être pas la même place, tous les deux.
Ouais, il ne gouverne pas bien à droite. Là. Je veux dire, c'est déficit par-dessus déficit qui sont normalement les politiques de la gauche. Petit programme social ici, petit programme social là. Là, tu me diras, ouais, il a acheté un pipeline, ouais. C'était une autre discussion, ça, mais ça fait quand même partie du décor. Je le dément pas. Et vous avez à côté de ça, ben, les libéraux au Québec, là, ils sont partis sur une stretch, comprends-tu? On va en parler tantôt du pont de Québec. Soudainement, tous les dossiers qui retardaient puis qui taponnaient... Il détaponne, là, parce que Trudeau a compris que s'il veut garder le pouvoir, même minoritaire, il faut qu'il score au Québec au moins 40 comtés. C'est beaucoup, ça, sur 78.
Puis sur les conservateurs qui sont pas plus hauts que ça, penses-tu qu'on est encore, on pense beaucoup à l'ère Stephen Harper, puis qu'on n'a pas tellement envie d'y retourner?
Je me le demande, parce que d'abord, je pense que l'histoire va être beaucoup plus... généreuse à l'égard de Stephen Harper que le point de vue que tu viens d'exprimer et qui est assez courant. Pourquoi? Parce que Harper, face au Québec, c'est une des complaintes du Québec depuis la création du pays, c'est l'ingérence fédérale dans ses champs de juridiction. Mm-hmm. Stephen Harper ne l'a jamais fait. Du point de vue d'un Québécois, je pense que Stephen Harper était, du point de vue d'un nationaliste québécois,
Ça veut dire ça va pas plus loin que ça, mais il nous a quand même reconnus comme nation.
Ouais, par une motion.
Oui, on sait très bien, mais quand même, ça n'a jamais été fait.
Oui. Puis Harper, lui, était de ce qu'on appelle de l'aile provincialiste, c'est-à-dire des politiciens fédéraux qui croient que l'ingérence d'un domaine de compétences provinciales, ça ne mène à rien de constructif, à rien de bon. Alors, il s'est jamais mêlé de ça. Il s'est jamais mêlé de ça. Il a même pas commenté les affaires qui se passaient au Québec.
Tu penses que le problème, c'est plutôt Andrew Scheer?
Le problème des conservateurs, c'est un mélange de... D'abord, Andrew Scheer, Il soulève pas les foules, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis les conservateurs, ben ils sont pris avec certains de leurs dilemmes. D'abord, il va falloir qu'ils réussissent, et je leur souhaite bonne chance, à faire comprendre aux Québécois que ça prend un pipeline qui traverse la province. Il va aussi falloir qu'ils leur disent, ben le registre des armes à feu, là, vous savez, nous autres, on est contre ça. Maintenant, faut faire attention. Comme on dit, it cuts both ways, c'est-à-dire que dans les régions du Québec, là où il y a beaucoup de gens qui vont à la chasse et qui ont cette tradition-là, le registre des armes à feu, c'est pas aussi populaire qu'à Montréal et à Québec. Et dans
non, c'est certain.
Alors ça, ça va être des enjeux auxquels ils devront faire face. Ils ont quelques bons candidats, ils ont recruté quelques bons candidats. Ça va être très intéressant de voir comment ils vont se situer par rapport à la CAQ. Parce que ce qu'on est en train de voir comme... comme redéfinition de l'échiquier politique québécois, ou retour aux sources, la CAQ redevient les bleus de l'Union nationale.
Hein? Oui.
Et puis les libéraux, ben, c'est des libéraux fédéraux et libéraux provinciaux. Alors la CAQ, bon, ce sont des bleus. Donc le vote que pourrait espérer avoir Scheer, il se trouve là. Donc il va falloir que Scheer puis son équipe de candidats développe un langage qui va plaire à cette frange-là, parce que je pense qu'ils sont là et qu'ils attendent qu'on vienne les chercher. C'est ce que je pense.
Ben d'accord. On va aux lignes tout de suite. On a un premier appel. Nicolas. Salut, Nicolas.
Oui, bonjour. Comment ça va, messieurs?
Ça va bonjour. Très, très bien.
Écoute, quelque chose. J'espère que jamais les conservateurs vont prendre le pouvoir. Et quand j'entends le monde se plaindre du déficit, mais faut comprendre que le déficit, là, c'est pas un accident. On dirait que tout le monde a oublié qu'en 2011, les conservateurs ont réduit le taux d'imposition des entreprises qui nous coûte 25 milliards par année. Alors, quand il y a un déficit de 15 milliards, mais il est là, le problème. La faute, elle est là.
Vous et moi, on pourrait avoir un joli débat là-dessus, là.
Je pense qu'on pourrait avoir un joli débat là-dessus.
Ouais, mets tes gants de boxe quand tu fais ça.
Moi, je pense que les déficits après les déficits après les déficits en période de croissance économique, je pense que c'est de la pure incompétence ou ben non, c'est du cynisme. C'est un ou c'est l'autre.
Mais monsieur Lavoie, si on a réduit nos revenus de 25 milliards par année...
On n'a pas réduit nos revenus de 25 milliards par année. Il y a eu des ajustements ailleurs. Ce à quoi vous faites référence, c'est les taxes sur les corporations ont diminué parce que l'idée étant de promouvoir le réinvestissement dans les entreprises. Vous le savez très bien, la taxe sur les entreprises, c'est toujours quelque chose qui est comment dire, controversé. Pourquoi ils ne payeraient pas les entreprises? Mais c'est parce qu'une entreprise, ça ne paye pas. Une entreprise, ce que ça donne en impôt fédéral, ça ne le met pas en investissement. Vous me direz, ah non, puis ça ne le donne pas en dividende. Oui, mais... Oui, allez-y.
Non, juste une petite chose. On est rendu, là, que présentement, au moment qu'on se parle, quelqu'un, sur le salaire minimum, paye un taux d'imposition plus élevé qu'une banque. Et si vous croyez que ça, c'est normal...
Je vais vous surprendre. Oui, je trouve que c'est normal. Moi, ce que je trouverais anormal, c'est de savoir que le président de la banque, qui, lui, fait 10 millions par année, ne paye pas d'impôts. Ça me scandaliserait.
Mais 100% d'accord avec vous, monsieur. 100%, ça, c'est un autre problème.
Il y a toujours un moyen de s'entendre avec Luc. Il y a toujours une zone qu'on n'avait pas vu venir. On est obligé de vous laisser aller. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci.
Nous autres, on s'en va à la pause. Puis Luc, puis moi, on continue à se tirer les cheveux après. On aime ça, nous autres. À tantôt.